Voilà. Donc c'est bien pour les jeunes ou les moins jeunes qui sont encore jeunes dans leur tête. C'est comme vous voulez. On peut encore allumer. Hein, merci. L'année prochaine, il y aura donc 300 personnes dans les rues de Naples, qui est une ville d'Italie, une très belle ville. Le but, c'est de vraiment former pendant 5 jours les jeunes à de la danse, à des pièces de théâtre ou de l'évangélisation créative. L'évangélisation créative, c'est quoi? C'est quelques jeunes qui se retrouvent autour du table et qui se posent la question, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'autorisation, comment est-ce qu'on trouve une bonne idée pour évangéliser? Et alors, il y a des idées super créatives qui sortent. Par exemple, il y avait des jeunes qui avaient construit une toilette en frigolite, ils se l'étaient attachés dessus, ils se promenaient avec un rouleau de papier toilette dans la ville. Ah oui, c'est très original, hein. Et ils allaient dire aux gens, voilà, est-ce que vous n'avez pas envie de tirer la chasse sur votre désespoir ou sur vos problèmes? Alors les gens devaient écrire leur désespoir, leurs problèmes, et le jeter dans la toilette. Et alors à ce moment-là, on avait la possibilité de parler de Jésus qui a lui-même tiré la chasse sur tous nos péchés, n'est-ce pas? Il y avait un autre quelque chose de plus gracieux, peut-être on avait créé des boîtes, qui avaient l'air d'être des boîtes avec un trésor immense à l'intérieur, vraiment quelque chose de phénoménal. On arrivait vers les gens, c'est mieux que le nouvel iPhone, c'est mieux que tout ce qu'on a pu imaginer, c'est vraiment un objet c'est quelque chose de valeur immense qu'on a là-dedans, parce qu'il y a un prix immense qui a été payé. Alors les gens ouvraient la boîte et ils se voyaient dans un miroir. Et alors on leur parlait que oui, Jésus a payé un prix immense pour eux, et ça veut dire que eux-mêmes ils ont un prix sans valeur. Alors, le ministère Jesus Revolution est rattaché à une église qui s'appelle Jesus Church, ou littéralement ça s'appelle l'église de Jésus. Et c'est à Oslo, j'ai pu voir leur pasteur, leur staff, ce fut très enrichissant, ils viennent de bouger dans une église, une vieille église luthérienne, ils ont reloué le bâtiment. Ça ressemble à un bâtiment d'église catholique pour nous. Moi je serais impatient de voir plein d'églises renaître dans les églises catholiques de Belgique. De voir des gens qui, on va louer votre salle, on va la repeupler, on va y avoir plein de gens. Et dans un but de changer les perspectives de jeunes, j'ai pris avec moi une jeune qui s'appelle Laura D'Arcangelo. Elle a participé au camp d'été l'année passée. Et je voulais qu'elle voie quelles étaient les conséquences de partager l'évangile dans une société qui est beaucoup plus en avance au niveau de l'église que nous. Je pense que nous sommes appelés en tant qu'église à changer de mentalité. Et c'est dans cette optique que moi j'ai pris Laura pour qu'elle puisse observer en Norvège une église avec une mentalité tout à fait différente. Une église qui est en bonne santé, hein, il faut le dire. Eux, ils ont une population de 4 millions de personnes là-bas. Et il y a à peu près 40% de chrétiens dans le pays. C'est assez énorme, hein. De ces 40% de chrétiens, il y a environ un quart qui est évangélique et pentecôtiste. Donc c'est à nouveau des nombres qui sont assez grands par rapport à notre situation à nous. Et pendant tout un moment, la Norvège, ce fut un des pays qui envoyait le plus de missionnaires dans le monde. Ils avaient vraiment un appel de vouloir bénir les nations, de vouloir évangéliser les nations. Donc, après 3 jours passés avec le ministère Jesus Revolution à Oslo, de lundi à jeudi, on a pu rencontrer différentes personnes. J'ai pu travailler sur la traduction du site web. Mais après ça, on a été connecté à une église locale sur la côte ouest, qui s'appelle Klippen. C'est à 1 heure d'avion de Oslo. Et là, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Ils organisaient une conférence écuménique des organisations missionnaires de Norvège. C'est-à-dire que toutes les organisations missionnaires venaient pour la conférence et il y avait des jeunes, des moins jeunes, des leaders, des pasteurs. Et toute cette conférence, c'était pour un petit peu rallumer ce moteur de mission de la Norvège. Alors, on a vu des belles choses parce que c'était quand même encourageant de voir des chrétiens faire des choses ensemble au nom de la grande mission que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous vous rappelez de la grande mission que Dieu nous a donnée? Ça se situe dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, 18 et 20, je vais vous le lire. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, les Norvégiens n'ont pas vraiment beaucoup besoin d'enseignements sur la générosité. Là-bas, les gens ont une habitude de donner de l'argent à leur église. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire à voir. J'étais dans une réunion avec 300, 400 jeunes, dans un bâtiment flambant neuf, avec du matériel technologique absolument phénoménal. J'étais en train de compter les spots, je dis 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Puis on compte la table, c'est au moins 25 000 euros. Enfin, vous voyez, c'est des sommes assez extraordinaires. Et alors que je regardais cette église en bonne santé, vraiment qui voulait réveiller leurs jeunes à aller en mission, à travailler pour le Seigneur, il y a le Saint-Esprit qui m'a soufflé quelque chose à l'oreille, qui m'a absolument percuté, et ça a résonné pour moi en Belgique. Il me disait que c'était pas le bâtiment ou tout le matériel qui était le plus précieux, mais c'était bien les gens qui étaient à l'intérieur. Toute cette salle remplie de jeunes, moi je veux voir exactement la même chose en Belgique. Je veux voir plein de gens qui sont là, prêts à servir le Seigneur. Maintenant, ce qui était dans le cœur du pasteur local, il s'appelle le pasteur Fred, c'est un Norvégien avec une coupe de cheveux très bizarre, c'était que son église elle-même aille en mission. Si les Norvégiens n'avaient pas besoin d'enseignement sur la générosité, ils avaient besoin d'enseignement, c'est ce qu'il m'a dit, hein, je ne veux pas juger. Il m'a dit, voilà, ils n'hésitent pas à donner, mais à aller eux-mêmes sortir de leur zone de confort. On n'est pas encore là. Alors il disait, mais moi, je vais les emmener là. On va envoyer des missionnaires. D'ailleurs, il y a deux missionnaires de leur église qui vont maintenant partir à Paris, fonder une église, et qui vont bouger toute leur famille là-bas. C'est vraiment quelque chose de beau à voir. Et moi, avec vous ce matin, je voudrais voir un appel similaire pour la Belgique. Je pense que nous sommes appelés en tant qu'église à retrousser nos manches et à regarder autour de nous pour voir que la Wallonie est un champ de mission qui a besoin de missionnaires. On est le sel de la Wallonie et nous devons donner du goût et de la valeur à la Wallonie. Alors, j'aimerais lire avec vous un passage dans Luc. Prenons donc l'évangile selon Luc au chapitre 10, où Jésus envoie ses disciples avec une mission. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 70. Il les envoya deux par deux en avant en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Si elle a un ami de la paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez, buvez ce qu'on vous sert. Car l'ouvrier mérite son salaire, ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous trouverez, où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez tous les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans cette ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même dans la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché de vous. Jésus est en train de mandater un groupe de personnes tel qu'il a mandaté les 12 disciples. Il a mandaté les 12 disciples dans le chapitre 9. Et ici, dans le chapitre 10, il mandate 70 personnes d'aller annoncer la bonne nouvelle que le règne de Dieu s'est approché d'eux, que le royaume de Dieu est présent sous la forme de Jésus. Ici, on peut voir dans le chapitre 9, Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelques maisons que vous entrerez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Alors que la Norvège est bien sûr un tout autre contexte, que la Belgique inversée s'est absolument détachée de ce passage pour moi. Et il a porté une marque dans nos cœurs pour notre Belgique. Je vois ce passage comme en lettres de feu dans mon cœur, hein, vraiment quelque chose de fort. Et ça décrit bien quelle est la situation actuelle de la Belgique. Je crois que le Seigneur veut en tirer une vision et j'aimerais bien la partager avec vous ce matin. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le verset 2 nous enseigne plusieurs choses. En premier, la moisson est abondante. L'Église, l'Évangile est cette vérité ultime autour de laquelle toute l'humanité tourne et évolue. Alors, certains peuvent parfois mettre en doute la raison pour laquelle Jésus est venu et pourquoi sa venue a bouleversé toute l'histoire. Mais son influence ne s'étend pas seulement dans les événements qui ont suivi sa venue, mais bien également sur le passé, le présent et le futur. Jésus est la réponse dont l'humanité avait besoin pour non seulement solutionner le problème du péché, mais également pour défaire celui à qui on avait remis les clés de cette terre, l'ennemi, le serpent dans le jardin, l'accusateur. La venue de Jésus et son sacrifice sur la croix sont l'accomplissement de la révélation de Dieu qui avait débuté par Adam et repris par Noé et Abraham. Nous, on est témoins que la résurrection de Jésus a des conséquences pour nous personnellement, mais également sur l'univers tout entier. L'univers tout entier. En effet, en se faisant homme, Dieu a changé la mise. Il a mis fin au règne du malin et a bien commencé le règne de Christ. Dieu étant un être intemporel, ça c'est parfois un peu difficile à comprendre, il n'est pas limité à la dimension du temps. Il a créé le temps. Le passé, le présent et le futur ne sont que pour lui des ravins à gravir, des montagnes à escalader en deux pas. Et il peut s'y déplacer librement. Nous pouvons voir ça dans le début de la lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Christ, il fut prédestiné avant la fondation du monde. Car le temps n'est pour lui qu'un autre, une dimension compréhensible qu'il a fondée. Donc, c'est quelque chose d'important à comprendre en tant que chrétien que Christ est intemporel. Pourquoi? Parce que si on oublie que Christ pardonne nos péchés passés, présents et futurs, lorsque, au cours de la vie, les circonstances nous amènent à commettre des actions que nous regrettons, eh bien, nous mettons un espèce de mur entre nous et Dieu. Nous posons des conditions au fait de s'approcher de lui. J'ai beaucoup de jeunes à qui j'ai un grand désir de les voir entrer dans une dimension nouvelle avec Dieu. Je voudrais bien qu'ils puissent avoir leurs rêves, leurs visions, mais également penser comment est-ce que je peux avoir un impact sur la société belge pour Dieu. Et alors que je leur parle de ça, c'est toujours, à la fin, on arrive souvent à la même conclusion. Oui, mais Benjamin, tu ne sais pas qui je suis, je fais des choses mauvaises parfois et je suis pas digne de servir le Seigneur. Mais personne n'est digne de servir le Seigneur. Et parfois, je me demande quelle est cette dichotomie qu'on fait dans nos têtes. Personne n'est digne. Il y a bien sûr un changement de vie qui doit prendre place lorsqu'on a rencontré Christ. Et la sanctification, c'est pas un moment précis, mais c'est un processus. Devenir chrétien, c'est un processus. Ça se fait tout au long d'une vie. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été chrétiens pendant longtemps et ils savent que la vie avec Jésus, c'est un processus. Et il faut absolument se rappeler que Dieu nous a appelés pas parce qu'on était dignes, mais parce que lui est digne. Ça ne dépend pas de nous. Alors, ce fut ce sacrifice de Jésus pour nous qui a des conséquences énormes, qui est l'expression pure et dure de l'amour, de la justice et de la sainteté de Dieu. La moisson est grande car elle dépend du maître de la moisson. On entend partout dans nos églises, moi j'ai beaucoup entendu ça quand je grandissais, que Dieu est le même partout. Amen. Et que Dieu est le même en Afrique, au Brésil, en Chine. Je parlais à quelqu'un qui avait vécu au Brésil pendant quelques années, et il me disait « Benjamin, là-bas, les gens n'ont rien. Tu vas dans la rue, tu parles de Dieu, tu as une réunion, 50 personnes qui se montrent. Tu pries pour qu'ils soient guéris, il y a des gens qui lâchent leur béquille, il y a des gens qui voient. » Et il me dit « Tu sais, ces gens-là, ils ont absolument rien. S'ils n'ont pas Dieu, ils sont perdus. » Alors comment est-ce que ça ne nous remet pas en question avec justement notre matérialisme, des gens qui n'ont rien? Ils ne peuvent que s'accrocher à la foi qu'ils ont en Dieu. Ça a des conséquences au niveau spirituel aussi, parce que là-bas, il y a des présences, il y a beaucoup d'animisme, d'occultisme. Les gens sont en recherche de quelque chose de plus, puisqu'ils n'ont rien. Et c'est pour ça sans doute que l'évangile a un impact tellement fort là-bas. Mais moi, je pense que les miracles que nous partagent les missionnaires, que ce soit d'Afrique, d'Amérique du Sud, sont également des miracles qui peuvent arriver ici, dans notre Belgique. Et ces miracles ont vraiment et déjà eu lieu. Ça dépend pas de nous, mais ça dépend du maître de la moisson, qui est absolument inchangeable, immuable, infini. Nous sommes appelés à avoir une foi sans limite, car elle ne se repose pas sur ce que les gens nous ont dit, ou ce que les circonstances de vie nous ont appris, mais bien sûr Dieu. Si la Bible nous apprend que Dieu est un être d'amour, nous sommes appelés à avoir la foi que malgré tout ce qui pourrait arriver dans notre vie, Dieu a les mains sur le volant, si nous lui laissons conduire la voiture, évidemment. C'est parfois difficile à voir, mais c'est vrai. Je me souviens, il y a quelques mois, dans ma famille, un être cher a été perdu. Et évidemment, la question qui arrive dans la tête de tout le monde, c'est comment est-ce que Dieu a pu laisser ça arriver? C'est souvent ce que j'entends. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé ça m'arriver? Et on remet Dieu en question, on remet la nature de Dieu en question par rapport aux circonstances qui ont été faites. Job, un homme qui a souffert dans la Bible, c'est sans doute un homme qui a beaucoup souffert, parce que il a eu un appel spécifique de prouver que Satan avait tort. Satan a accusé cet homme de ne pas vouloir suivre Dieu, et Dieu lui a dit « Ok, je te prends au mot, vas-y, amène-lui des difficultés, tu verras. » Dieu ne fait pas ça avec tout le monde, c'était un appel spécifique, d'un homme spécifique. Mais qu'est-ce que Job nous apprend? C'est qu'alors qu'il se croyait bon, et effectivement, dans toutes ces circonstances, il sort quelque chose de sain dans son attitude, mais il met toujours Dieu sur la chaise de l'accusé. Pourquoi est-ce que tu fais ça qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu m'envoies des maladies? Pourquoi est-ce que tu m'envoies des morts? Quelque chose qu'on fait souvent avec Dieu. Et la réponse de Dieu est assez intéressante. Il ne répond jamais aux questions de Job, à aucun moment. Ce que Dieu fait, c'est, il dit, regarde un petit peu cette créature immense. Je ne sais pas si c'est un dinosaure ou un truc, mais ça faisait peur. Regarde un peu cette créature immense. Les flèches que tu as ne peuvent pas la percer. Les lances n'arrivent même pas à traverser sa carapace. Et moi, si Dieu de l'univers, j'ai créé les fondations du monde, en un instant, je pourrais la détruire. Ce que Dieu dit à Job, c'est si moi j'avais voulu du mal à toi, tu ne serais plus. Et cela, ça remet un peu en cause notre compréhension de Dieu. Dieu ne change pas, même si les circonstances parfois sont difficiles. Dieu est bon envers nous. Et nous devons nous accrocher à cette foi, parce que lorsqu'on va dans les rues, lorsqu'on vit notre vie chrétienne en Belgique, parfois les circonstances sont difficiles. Parfois, nous n'avons pas une église norvégienne où il y a une société qui a 40% de chrétiens, là où on a une liberté d'expression qui est libre. Parfois, c'est difficile. Parfois, on va rencontrer beaucoup d'agressivité. Je me rappelle, le pasteur de Fontaine-l'Évêque m'explique, quand moi je parle de Jésus aux gens, parfois ils essaient de me frapper. Mais c'est pas grave. Ça en vaut la peine. Je trouve que j'ai beaucoup à apprendre, moi, de ce genre d'attitude. Et les chrétiens de son église qui suivent aussi. Alors, on doit faire tout ça avec sagesse, évidemment. Mais la moisson des grandes, et les disciples avaient reçu l'abondance de cette moisson. Ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Jésus est venu libérer les captifs, amener la liberté et la sainteté chez son peuple. Il nous a choisis pour son œuvre. Et ceci m'amène au deuxième point. La moisson est grande, Dieu ne change pas. Dieu veut faire des choses extraordinaires qui sont tout à fait en accord avec sa nature, qu'il est bon, saint, grand, puissant. Mais les ouvriers sont peu nombreux. La Belgique, les ouvriers sont peu nombreux, c'est vrai. Cette phrase nous met devant la responsabilité de comprendre que la Belgique a besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes le sel de cette terre et nous devons marcher en l'œuvre de Dieu. J'animais un groupe de maison, car les leaders étaient partis en vacances. Nous regardions un DVD d'un évangéliste qui s'appelle Reinhard Bonnke. Et il enseigna quelque chose de très percutant. Il enseigna qu'il existait en allemand, qui est sa langue natale. C'est un évangéliste qui était prêché en Afrique, Reinhard Bonnke. Il a eu des rassemblements assez extraordinaires. Il a réussi à un moment donné même à assembler 1 million de personnes en plein air pour prêcher l'évangile. Il enseigne qu'en allemand, on a une façon de désigner quelqu'un qui n'est pas bien. Il dit ceci. On dit qu'il est nul. Nul. On dit ça aussi en français. Il dit, ça veut dire zéro. C'est un zéro. On dit pas que c'est un bon rien, on dit c'est un zéro. Et Reinhard Bonnke explique que lorsqu'il fut appelé à côté de Jésus, il s'est rendu compte que Jésus était numéro un et que, à côté du numéro un, il formait déjà un 10. Et que si on rajoutait un autre zéro, ça faisait 100. Puis ça faisait 1000, etc., etc. 10 000, 100 000, 1 million. Et c'est chaque fois le dernier zéro qui est le plus important, qui rajoute le plus de valeur. Alors, il est tellement vrai que l'œuvre que nous sommes appelés à faire en Belgique est une œuvre missionnaire. Et je pense que cette leçon est pour nous. Si nous ne nous sentons pas capables, parce que nous sommes à côté de celui qui est capable, alors les choses deviennent possibles. Moi, je ne sais rien faire tout seul. J'ai du mal à parler devant les gens. Je manque de confiance en moi. Parfois, je suis vraiment de mauvaise humeur. Mais à côté de Jésus, il sanctifie tout ça. Amen. Alors, il faut un petit peu comprendre que la Wallonie est quelque chose de spécial, que la Belgique est quelque chose de spécial. La Belgique, c'est un champ missionnaire. Imaginons ensemble un missionnaire qui part en Afrique vers des tribus étrangères. Voilà, vraiment de la mission très stéréotypée. Quelles seraient les difficultés qu'il pourrait rencontrer ? Les gens et le sol sont hostiles à sa venue. Voilà, il arrive là, il y a un docteur, un chaman. Les gens et le sol sont hostiles à sa venue, il ne veut pas l'entendre parler de lui. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il est donc seul. Pas beaucoup de chrétiens en terrain missionnaire, non, c'est vrai. Un petit peu le seul au milieu du village. Il doit lutter contre des choses spirituelles. Eh bien oui, comment ne pas reconnaître la Belgique dans ce champ missionnaire ? Comment on peut parfois rencontrer une certaine hostilité chez les gens dans la rue quand on leur parle de l'amour de Dieu ? On est environ 0,6% de chrétiens en Belgique, sans compter l'Église catholique. Et oui, il existe des batailles spirituelles dans nos vies. Nous luttons pas seulement contre des choses physiques, mais aussi contre des choses spirituelles, des mentalités, de l'idolâtrie. On doit donc s'équiper de foi pour être des ouvriers efficaces, pour revêtir l'armure de chrétien, si on désire avoir un impact. J'ai vu beaucoup de personnes entrer dans un ministère chrétien avec beaucoup de passion, beaucoup de zèle, mais oublier parfois de revêtir leur armure. Et malheureusement, les conséquences que ça a, c'est qu'après 1 ou 2 ans, il y a des circonstances malheureuses qui arrivent dans leur vie, et boum, c'est terminé, ils sont mis sur le côté. Et je trouve ça tellement dommage de voir des gens avec plein de potentiel qui se retrouvent mis sur le côté. J'aime beaucoup le leader pour lequel je travaille, qui s'appelle Daniel Constanza, qui a il veut remettre un souffle d'espoir dans les gens. Alors quand il trouve des gens qui ont été mis sur le côté, il va les voir, il leur dit « prends soin de toi » et après on recontinue. Il réinsuffle une vision en eux. Je voudrais bien qu'on prenne le texte en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. « Enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre des hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal et dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, de l'homme droit. Mettez donc comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Nous avons ici un homme, un apôtre, qui est spécialiste des champs missionnaires, qui nous explique que si on regarde le champ missionnaire d'une certaine façon, une certaine perspective, c'est comme un peu un champ de bataille. Et que de ce fait-là, nous sommes des soldats. Et que nous devons nous maintenir notre armure propre et bien faite. Parce que sinon, on va rencontrer des choses qui vont nous terrasser. Je me rappelle au début que je prêchais l'évangile en mission avec Jesus Revolution. J'avais parfois des moments vraiment noirs en moi. Des moments de dépression. Des moments difficiles. Et j'aime beaucoup utiliser la logique, j'ai remarqué que ces moments souvent arrivaient juste avant d'aller évangéliser. Tiens, c'est bizarre. Et puis après, je trouvais que j'étais un peu bipolaire parce qu'après ça allait très bien. Je me dis, mais c'est quand même pas normal. Et j'ai commencé à faire ceci à chaque fois qu'on allait évangéliser, on avait un temps de prière, mais de vraiment proclamer la puissance de Dieu et lier les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Que l'ennemi ne puisse pas nous toucher. Eh bien oui, parce que si toi, chrétien, tu vas un petit peu commencer à partager ton témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, ça va déranger les choses qui ont enchaîné les gens, ça va les embêter. Tu vas aller embêter l'ennemi et il va essayer de limiter ton influence. Je me rappellerai très bien ce moment quand j'étais avec plein de jeunes en Italie cette année. On était justement à ce camp-là qui s'est passé cette fois-ci à Catanzaro. Et juste avant de partir, j'attrape une crampe à la cheville. Et je suis vraiment fâché, je dis non, dans le nom de Jésus, ça suffit. Ça ne va pas, ça. Et je sens l'esprit qui chasse cette crampe de pied. Et alors après, on est parti en évangélisation. Et puis, je parle à deux, trois jeunes. Ils me disent, je sais pas pourquoi, ouais, j'avais ça, mais ça va mieux maintenant. J'avais mal au dos, mais ça va mieux maintenant qu'on est parti. Et j'écoute un petit peu les histoires. Et oui, je vois, il y a une pression spirituelle quand on fait de l'évangélisation. Il y a quelque chose qui va se passer. Et je dis pas ça pour faire peur, pour essayer de nous intimider. Au contraire, je dis ça juste pour prévenir que si Dieu a un plan dans ta vie pour faire de grandes choses, tu es une cible. Si Dieu a un plan spécifique pour toi, surtout si tu vas avoir beaucoup d'influence, tu es une cible pour l'ennemi. Et l'ennemi, il veut t'écraser, il veut t'annihiler. Il veut empêcher d'avoir de l'influence. Il utilise tout ce qu'il y a dans son arsenal pour le faire. Mais on a la victoire en Jésus. Il suffit juste d'appeler à Jésus. Et Jésus, il fait bouger ses pions d'une façon assez magique. Mais bon, je m'emporte. Il est toujours possible de vivre une vie chrétienne sans trop de mouvement. C'est tout à fait possible. Je pense même que Dieu est OK avec ça. Si tu veux vivre ta vie chrétienne comme quelque chose de très banal et très simple, Dieu va respecter ton choix parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais on ne ferait que gratter la surface de la vérité qui nous a été donnée. Il faut absolument penser aux gens qui pourraient nous remercier au ciel parce qu'on a eu le courage, l'audacité de leur partager la bonne nouvelle de Jésus. C'est parfois pas facile de se rappeler qu'il y a un jeu très très à haut prix qui se joue. C'est parfois difficile de se dire « Ah, si l'Église n'évangélise pas les gens, ils ne seront pas sauvés. » Mais c'est tout simplement si on ne vient pas leur annoncer le message de l'Évangile, ils n'auront pas l'occasion de le connaître. Il est vraiment intéressant de voir que les gens sont sur une journée avec Dieu. L'histoire de Jacob nous apprend quelque chose d'assez intéressant, c'est que avant que Dieu se révèle à Jacob, on décrit Dieu et Dieu se présente à Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je suis le Dieu de tes pères. Alors moi, je suis convaincu que partout en Belgique, des gens, ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu d'une façon ou d'une autre, à la télévision, par leurs amis, par leur famille. Et à un moment donné ou l'autre, Dieu donne ce choix à Jacob, mais je peux devenir ton Dieu. Et l'histoire de Jacob continue et ça finit d'une très belle manière quand il revient au pays et il écrit Israël. Alors Dieu donne un nouveau nom à Jacob, il l'appelle Israël et ce texte El Eloé Israël, ça veut dire El, donc Dieu, le Dieu de Jacob. C'est vraiment magnifique. Jacob adopte Dieu comme Dieu. Mais c'est plus devenu seulement le Dieu de ses pères, c'est devenu son Dieu à lui. Et c'est la même chose pour chaque personne avec qui vous allez partager l'évangile. Dieu veut se présenter à eux. Vous êtes une pierre, vous êtes une nouvelle expression de Dieu dans leur vie. Et ça nous enlève une certaine pression de penser qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir dans leur vie pour annoncer l'évangile. Je me rappelle toujours cette épiphanie qui m'est arrivée, cette révélation qui m'est arrivée lorsque à Budapest. C'était donc en Hongrie il y a quelques années et je vois, on fait une évangélisation de rue et alors je vois quelqu'un qui est touché par le message de l'évangile, par le prédicateur et je lui dis bonjour, je me présente et je lui demande est-ce que vous êtes touché par ce qui s'est passé? Il fait oui, vraiment. Est-ce que vous voulez recevoir, comme le prédicateur l'avait dit, est-ce que vous voulez rencontrer Dieu aujourd'hui? Et puis cet homme me parle, écoutez, en fait, on m'avait déjà présenté l'évangile et quelqu'un avait partagé son témoignage, mais on m'a jamais demandé si je voulais le recevoir. Alors, quand on m'a demandé ce qui s'est passé, j'ai expliqué, les gens étaient étonnés, oh, ouais, c'est bien, tu as mené quelqu'un à l'évangile. Mais non, j'ai rien fait. Le travail avait été déjà fait en amont. C'est pas moi qui l'avais annoncé le témoignage, c'est pas moi qui l'avais touché, c'était le Saint-Esprit déjà, c'est pas moi qui lui avais annoncé l'évangile avant. Cet homme, il avait tout compris, il fallait juste que Dieu fasse le petit dernier coup, là. Est-ce que tu veux m'accepter? Et c'est un petit peu ça, notre vie en tant que chrétien. Parfois, tu vas rencontrer un moment donné où les gens sont en face de toi, sont très durs face à la vérité de l'évangile. Et ils veulent seulement te foutre des baffes. Mais il y a d'autres moments où les gens sont dans un moment dans leur vie où ils sont mûrs spirituellement, ils sont en recherche. Et ça se voit très facilement parce que quand tu leur parles de Dieu, de ton expérience avec Jésus, il n'y a pas de moquerie, il n'y Il y a deux oreilles qui t'écoutent et qui demandent est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que cette vérité-là, je peux la saisir par moi-même? Et nous, en tant qu'Église, si on oublie si on n'est pas prêt à accueillir ces gens-là quand ils sont mûrs spirituellement, alors nous ratons notre mission. Si l'Église n'est pas prête à accueillir les gens qui sont en soif, en recherche spirituelle, alors on a raté notre mission. C'est pour ça que j'aime tellement ce qui se passe ici le vendredi une fois par mois, un moment concret et précis où les gens peuvent rencontrer Dieu. Voilà une Église qui permet aux gens en recherche de Dieu de pouvoir le rencontrer. Je parle pour trop longtemps. On va bouger. Alors, Dieu peut nous laisser tranquilles dans notre vie chrétienne, mais j'aimerais bien qu'on pense à tous ces gens qui vont nous remercier au ciel parce qu'on a commis une différence dans leur vie et qu'on leur a expliqué qu'il y a une voie vers Dieu. Des gens pourraient se moquer de toi, c'est possible. Des gens on pourrait se sentir mal. Ça va durer 5 minutes et tu vas en ressentir plus fort. L'éternité, par contre, ça dure pour l'éternité. Je suis le défenseur véritable des études supérieures ou des formations. Moi, quand les jeunes me disent qu'ils n'ont pas de plan, moi je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai envie de voir ces jeunes aller avoir de l'ambition et devenir des acteurs concrets et positifs dans la société pour avoir de l'influence, parce que je pense que les chrétiens sont appelés à en avoir. Mais parfois, j'ai remarqué qu'on a tendance à sacrifier notre relation avec Dieu dans l'élan de l'ambition d'une bonne vie. Que ce soit l'idée d'un bon futur, l'idée d'un bon mari, d'une bonne femme, l'idée d'être plein de succès au boulot, l'idée de bien réussir son travail. Parfois, notre ambition, nous sommes toujours pressés à faire des plans dans nos têtes sur comment le futur va se dérouler, et il y a des moments où on oublie de faire une place à Dieu dans tout ça. Alors moi, je veux vous encourager à laisser une place à Dieu dans le plan que tu as pour ton futur, pour qu'il vienne probablement tout déranger, mais c'est pas grave. Laisse une place à Dieu pour agir. Laisse une place à Dieu de te prouver qui il est vraiment. Le point numéro 3 que je veux partager avec vous ce matin, c'est prier le maître de la moisson pour des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour des nouveaux ouvriers. Le vrai Dieu de la Belgique est bien présent et bien puissant. Prions pour qu'il puisse appeler de notre sein, de notre église belge, des nouveaux ouvriers dans la moisson. Je pense que nous sommes appelés à équiper cette nouvelle génération à servir Dieu et son royaume. Je parlais à un ami il y a une semaine d'ici et je lui disais, je ressens que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec cette génération. Et il monte sur ses grands chevaux. Tu sais, depuis que je suis petit, j'entends que les gens annoncent que c'est la nouvelle génération, que c'est une génération choisie. Et puis je me dis, oui, c'est vrai en fait. Moi aussi, je l'ai beaucoup entendu dans ma vie. C'est un petit peu vieux ce message. Puis je réfléchis un petit peu, je me dis, mais j'ai jamais dit qu'on était une génération choisie. Je dis que Dieu veut faire quelque chose de nouveau et qu'il a besoin de gens pour le faire. Si personne ne bouge, Dieu ne va pas pouvoir bouger. Il va bouger avec ceux qui sont disponibles. On a la responsabilité en tant qu'Église de prier et de demander à Dieu d'appeler des gens pour accomplir les choses qu'il veut faire en Belgique. Parce que la prière va bouger les choses. La prière, c'est, je pense, un moyen concret de redonner à Dieu la responsabilité, la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu, il s'est vraiment limité en donnant toute chose à son fils. Il aurait pu faire le plan robot. J'appelle ça le plan robot, c'est hop, tout le monde m'aime. Il l'a pas fait. Il nous a donné la liberté. Il a tout confié en Christ. Et Christ, confiant dans la puissance du sacrifice qu'il a fait, il nous a remis, à nous, l'Église, le champ d'action. Nous sommes appelés à être Christ devant le monde. Nous sommes à être Christ devant l'humanité. Et nous sommes appelés à prier pour demander au maître de la moisson, au Père, de faire des choses extraordinaires dans notre ordinaire. La prière, ça ne doit pas juste être une succession de mots. La prière ne doit pas juste être une succession de mots, mais ce désir de prière doit se répercuter dans toutes nos zones de vie. Nous devrons être des chercheurs actifs d'ouvriers. Toutes les personnes qui sont ici, nous devons pouvoir parler l'espoir dans la vie de gens qui veulent se lever pour Christ. Il existe beaucoup de gens qui pourraient faire beaucoup de choses pour le royaume, mais ne sont pas utilisés. Des gens avec des formations économiques, légales, pratiques. Nous faisons tous partie du même corps et nous devons tous être en action pour travailler pour la construction de cette église. Éphésiens 4, verset 4, 1, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés par une seule espérance de votre appel. Romains 12, verset 4 à 5, Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes aussi, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. Car de même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, soient un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Or vous êtes le corps de Christ et ses membres chacun avec une fonction particulière et des dons particuliers. La moisson est grande, Dieu est grand. Il veut faire quelque chose de nouveau. Et nous, en tant qu'ouvriers, nous devons retrousser nos manches, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Je voudrais bien faire un appel à la prière. Une prière, comme je disais dans le troisième point, une vraie prière qui lie l'action au mot. Et je voudrais bien terminer, car on a vu assez de choses aujourd'hui, mais je pense qu'un appel se dessine. Alors moi, je pense qu'on peut répondre à l'appel de Dieu de notre chaise, ou de devant, si vous voulez prier avec nous. Parce qu'on est une famille, mais l'appel, c'est de laisser le Saint-Esprit dessiner quelque chose dans notre cœur pour un nouvel élan de mission. Est-ce qu'on peut donner l'opportunité au Saint-Esprit de faire quelque chose de nouveau dans nos cœurs, de nous donner une nouvelle mission? Nous sommes les missionnaires de la Wallonie. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a que nous. Enfin, ça se voit, hein. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Belgique, donc on est là. Et je veux te demander, est-ce que tu veux pas répondre à l'appel de Dieu et devenir un ouvrier du royaume de Dieu? Dieu, il est un être plein d'amour et de grâce, il va te prendre sur une journée où c'est à ta vitesse. Il ne va pas faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Il va te mener là où tu vas aller, il va t'équiper là où tu vas aller. Cela met certains de nos plans en péril, je comprends. Peut-être tu travailles déjà pour le royaume, mais le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin. Il veut te donner de nouveaux défis. Et j'aimerais bien qu'on prenne un moment de louange et de prière pour vraiment ressentir ça dans le cœur, pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire de nouveau. Je vais laisser Camille nous diriger dans un chant, mais juste avant, j'aimerais bien prier avec vous.